Vous écoutez France Culture. France Culture, 10h. Les humanités. Jeudi, une vie, une œuvre par Mathieu Garrigou-Lagrange. Vendredi, les vendredis de la philosophie par François Noudelman. Aujourd'hui, Métropolitain par François Chalin.
Elle pénétra dans San Narciso un dimanche. Elle conduisait une Impala de location. Il ne se passait rien. Elle dominait une colline, elle dut cligner les yeux à cause du soleil. Devant elle se déroulait une vaste étendue de maisons qui avaient toutes poussé en même temps comme une moisson sur la terre d'un marron terne. Cela lui rappela la première fois qu'elle avait ouvert un poste à transistor pour changer les piles et qu'elle avait vu un circuit imprimé. Tout cet ensemble de maisons et de rues vues sous cet angle surgissait avec une clarté stupéfiante, comme les circuits sur la plaque. La brume envahissait l'horizon, la réverbération du soleil sur le sol beige brûlait les yeux. Avec sa Chevrolet, elle semblait garée juste au beau milieu d'une extase religieuse. Thomas Pynchon, The Crying of Lot 49, 1966, traduit de l'américain par Michel Doury, vente à la criée du lot 49, édition du Seuil, 1986. Métropolitain. Ce matin, Thierry Pacaud parlera des bruits urbains avec le philosophe Jean-François Augoyard, venu de Grenoble. En fin d'émission, nous diffuserons les débats du jury du prix La Ville à lire à propos de l'un des ouvrages qui était mentionné, La promenade à Paris au XVIIIe siècle de Laurent Turcot. Et nous recevons d'abord Jean-Claude Bouvier, venu d'Aix-en-Provence, pour parler de toponymie ou science des noms de lieux dans une perspective statistique et historique. La manie qui consiste à sans cesse rebaptiser les noms de rues affecte maintenant des milieux très inattendus. Ainsi, Libération du 22 février publiait un article de l'Association pour l'attribution du nom de Léo Ferré à un espace public dans la ville de Paris, au prétexte que l'anarchiste avait une contribution à la culture en général et au rayonnement de Paris en particulier, qui n'aura pas été moindre que celle de Dalida, Mireille, Loulou Gasté et quelques autres, on s'en doutait. Et c'est justement pourquoi il ne convient certainement pas de lui donner une plaque comme à n'importe quel conseiller municipal. Nous ne lui offrons donc pas de rue à Léo Ferré, mais une virgule musicale, Léo Ferré, comme une fille, la rue se déshabille, 1969.
Comme une fille, la rue se déshabille, les pavés s'entassent et les flics qui passent les prennent sur la gueule. Paris, Marseille, les rues sont pareilles, quand le sang y coule, la mort y roucoule, une rose dans la gueule. Comme une fille qui a les yeux qui brillent et met ses grenades sur la barricade. La rue a ses charmes et les flics en armes les prennent dans la tronche.
Jean-Claude Bouvier, vous êtes professeur émérite de langue et de culture doc à l'Université de Provence, que vous avez présidé d'ailleurs dans les années, la fin des années 80. Vous êtes notamment spécialiste de dialectologie, de géolinguistique, d'ethnolinguistique et de toponymie générale, et particulièrement de toponymie urbaine. Vous avez organisé il y a une dizaine d'années à Aix-en-Provence un colloque sur ces questions de toponymie, c'est-à-dire la science ou l'étude des noms de lieux, l'odonymie étant la science des noms de rues, de grec odos. Il y a même les odonymes et même les étymons odonymiques, enfin on parle d'anthroponyme et de pas trop toponyme. Il y a toute une déclinaison, mais qui ne concerne que 3 ou 4 universitaires en France, je pense.
Oui, il y a très peu d'universités qui enseignent la toponymie, et la toponymie urbaine encore moins. La toponymie urbaine est un champ un peu vierge en France, et c'est un peu pour ça que je m'y suis lancé et que le colloque dont vous avez fait état a été organisé.
Alors, cette étude des noms de rue jouit d'une réputation beaucoup moins établie que l'étude des toponymes ruraux. Pour quelles raisons ?
Bien, pour beaucoup de raisons. Je pense que les toponymistes, proprement dit, professionnels, aiment bien les origines anciennes, quand c'est celtique ou encore plus pré-celtique ou pré-indo-européen, là ça excite beaucoup de gens, et c'est vrai que c'est très intéressant d'essayer de percer les origines les plus anciennes des noms. Et donc en toponymie urbaine, l'ancienneté est moins grande, la couche historique est moins grande, mais il y a quand même parfois des problèmes d'étymologie. Et puis, les noms de rue, enfin, d'une façon globale, la ville est un milieu dont on se méfie un peu, dans certains milieux scientifiques peut-être. Et c'est pour cela, et puis c'est plus facile aussi de travailler sur le monde rural que sur le monde urbain.
On va voir pourtant que sur, en gros, les trois siècles depuis lesquels existe la toponymie urbaine à peu près, les élus ou les pouvoirs politiques se sont appliqués à changer parfois extrêmement souvent les noms de certaines artères ou certaines places ou certaines rues. Vous avez travaillé pour le livre dont on va parler sur ce qu'on appelle un corpus extrêmement large et pour partie informatisé, ou plus exactement sur deux corpus ou corpi.
Oui, j'ai travaillé sur deux corpus informatisés. L'un qui est tout à fait intéressant, qui est exhaustif, c'est celui de la Poste qui contient toutes les adresses de toutes les communes, même les plus petites, quand il y a des noms de rue. Et malheureusement, ce corpus, cette base de données de la Poste n'est pas publique. Donc je l'ai interrogé au coup par coup. J'ai été très très bien accueilli par les représentants de la Poste, mais je n'ai pas pu l'utiliser systématiquement. Alors j'ai utilisé une autre base de données qui est de Microsoft, MapPoint, exactement. Alors qui n'est pas exhaustif, qui ne concerne que des communes au-dessus de 2000 habitants environ. Mais les résultats ne sont pas très différents de ceux de la Poste. C'est pour ça que je l'ai beaucoup plus utilisé finalement.
Alors, pendant longtemps, les noms de rues ont été très peu fixés, très instables, parfois même multiples. Et on dit que c'est vers le XIIIe siècle que les choses ont commencé à se figer, en France en tout cas.
Oui, alors c'est ce qui m'a frappé, c'est que jusqu'au XIIIe siècle, et même XIVe siècle peut-être, il n'y a pas de nom de rue. Et il y a des rues, certainement, dans les villes, mais ce n'est pas l'unité essentielle. L'unité essentielle, c'est plutôt le quartier. Les quartiers où il y a la présence de monuments, et quand on donne une adresse, dans des textes anciens, c'est près de tel monument, près de telle grange, ou bien dans tel quartier qu'on appelle un vicus dans les textes latins, comme en latin, donc. Et c'est peu à peu que les noms de rue vont apparaître, et sous une forme de périphrase. J'aime dire parfois que c'est des toponymoïdes, comme il y a des anthropoïdes, c'est-à-dire c'est des noms de lieux en formation. On trouve des périphrases, la rue qui va de tel endroit à tel endroit, ou bien qui est située à côté de tel monument, etc. Et puis peu à peu, les choses se fixent et se figent, et on arrive au nom de rue que l'on connaît actuellement à partir du XIVe siècle environ.
Mais comment faisaient les Romains, qui avaient des villes immenses, oui, et qui avaient un sens quand même particulier de l'ordre, de la numérotation et de la géométrie? On sait comment ils faisaient?
Oui, alors les Romains, j'en parle un peu dans le premier chapitre. Les Romains, et c'est ça qui est extraordinaire, fait du moins les Romains de la Rome impériale, sous l'Empire, avaient des noms de rues, de voies, qui étaient tout à fait semblables aux nôtres, avec des noms descriptifs, par exemple pour la Via Lata, la rue large, par exemple, ou Via Magna, qui est l'équivalent de grande rue chez nous, ou bien des noms de personnes comme la Via Appia, alors la Via Appia qui sortait plutôt de Rome, mais il y avait tout un système dénominatif semblable, à peu près semblable aux nôtres, dont j'ai fait état. Et puis, pour des raisons que je ne m'explique pas, cela, ça s'est perdu complètement. Et les archéologues ou historiens que j'ai interrogés, les ouvrages que j'ai lus, n'indiquent aucun nom de rue dans les cités gallo-romaines.
Les Romains n'inscrivaient aucun nom de rue sur les monuments ou sur au coin des rues, hein, ça n'existait pas. Non. C'est apparu très tard, d'ailleurs, dans nos sociétés.
Voilà. Alors, l'inscription des noms de rue, les plaques de rue, ne commence pas avant le XVIIIe siècle chez nous. Et au début, ce sont des plaques de pierre sur lesquelles les noms sont gravés. On en trouve encore à Paris, un peu de partout. Elles ont été un peu restaurées ces dernières années. On trouve des noms comme cela, avec un numéro dessus qui n'est pas le numéro de la maison, contrairement à ce qu'on croit parfois, mais qui est le numéro du quartier. C'est l'îlot, le quartier qui est indiqué.
Vous précisez même que lors ordonnance, la première ordonnance, c'est celle de 1728, prescrivait que ce fût peint sur des feuilles de fer blanc, en caractère noir donc, et qu'il en resterait une quelque part.
Oui, je crois qu'il en reste une quelque part que je n'ai pas.
Rue des Postes, c'est ça. À Paris.
À Paris, c'est la rue des Postes, effectivement. Mais ce qui a été surtout en usage dans les grandes villes comme Paris, Marseille, Lyon, Nantes, enfin un peu, on en trouve un peu de partout, ce sont ces plaques de pierre. Ces plaques de pierre qui sont des inscriptions souvent sur le mur de la maison, tout simplement.
Parfois gravées à même la pierre. Hein. Et puis, bien que la loi prévoyait que ce fussent des tables de pierre et donnait même l'épaisseur de la table de pierre. Et vers 1844 et ensuite 1847, le système des plaques que nous connaissons, qui à Paris sont blancs sur fond bleu, mais qui dans d'autres villes ont d'autres caractères graphiques.
Oui, alors en général, c'est toujours le blanc sur fond bleu que l'on trouve. On a une certaine uniformité des plaques, mais depuis peut-être une vingtaine, trentaine d'années, il y a beaucoup plus de couleurs sur les plaques des rues. Il y a beaucoup plus d'imagination aussi. On fait des efforts pour avoir des plaques un peu plus modernes. Mais ça ne change pas grand-chose au fond de l'affaire.
Alors, revenons-en à ces anciens noms au XIIIe, au XIVe, quand apparaissent les noms de rues. Beaucoup renvoient à des qualités physiques de la rue large ou les rues très étroites. Vous donnez des noms très jolis de rues étroites en Provence.
Oui, alors, à Aix-en-Provence, où j'habite, il y a une rue qui existe toujours et qui a toujours le même nom, c'est la rue Esquitchocoud. Esquitchocoud, c'est en provençal et ça veut dire qui écrase les coudes. On peut dire que c'est une exagération méridionale, mais c'est exactement cela. C'est une rue très étroite et on considère qu'elle écrasait les coudes quand on y passait. Il y a d'autres noms. J'ai vu une A3 en Champagne, il y a une rue des Chats, qui est une toute petite rue et qui n'était possible, semble-t-il, que pour les chats.
Très souvent, bien sûr, on nomme depuis un calvaire qui est là. Alors, ça fait toutes ces rues de la Croix, de la Croisille, de la Croisette, etc. Un petit pré. Alors, c'est l'étymologie d'un des noms de rues les plus courants.
Oui, les rues de la Croix ou les rues du Pré, par exemple, et qui ont... Lorsque la croix a disparu ou lorsque le pré a disparu, et ça arrive assez vite, c'est le problème du référent qui disparaît ou qui n'est plus compris du tout. Donc la rue perd son sens premier et donc on peut le transformer. Et là, à Toulouse, par exemple, la rue qui s'appelait la rue de la Croix parce qu'il y avait une croix est devenue la rue de la Croix, la rue du peintre de la Croix, en étant passé par un Toulousain de la Croix. D'ailleurs. Et la rue du Pré, c'est la même chose.
Pré, ça se traduit souvent par Prado.
Oui.
Le boulevard du Prado à Marseille, c'est un pré?
Alors, le Prado à Marseille, oui, c'est un pré, c'est Pradé ou Pradé ou en provençal, c'est un pré qui a donné son nom à la rue. Oui.
Ce qui est très frappant aussi, c'est bien sûr les rues que l'on désigne par des noms de métiers, rue de la Verrerie, rue des Tanneurs, rue de ceci ou de cela, avec un record absolu pour Tuileries.
Oui.
Vous en avez compté 236 en France.
Oui, ce qui n'est peut-être pas énorme. Là, c'est d'après MapPoint. Bon, ce n'est pas exhaustif. Il doit y en avoir plus, deux ou trois fois plus. Mais enfin, ce n'est pas quand même considérable. Mais par rapport à d'autres métiers, effectivement, c'est important. Tout simplement parce que la tuilerie, contrairement à d'autres métiers comme la verrerie qui est plus limitée, ou bien d'autres métiers ont été moins répandus ou sont plus anciens, la tuilerie s'est faite à toutes les époques. Donc, et on a encore des tuileries. Donc il y a une permanence de l'institution qui fait que le nom de la rue est effectivement plus mieux représenté que d'autres.
Hein. Beaucoup de noms d'animaux, y compris d'animaux peu familiers aux rues, et qui souvent viennent peut-être de noms d'auberges ou de noms de commerce.
Voilà, oui. Oui, alors ça, c'est une chose qui m'a intéressé, c'est de voir le grand nombre des noms d'enseignes que l'on trouve. Et les enseignes, comme je l'ai dit un peu dans le livre, étaient au fond un moyen très souvent de s'orienter dans les rues. On s'orientait par rapport à telle enseigne. Et c'est pour cela qu'il y a eu un grand nombre d'enseignes qui sont devenues des noms de rues. Alors il y a le Cerf en particulier qui est très, très usité. Il y en a beaucoup d'autres que l'on trouve.
Bien sûr, il y a des toponymes extrêmement courants, dont château, église, chapelle, mairie, etc. Il y en a de plus douteux comme Enfer.
Alors l'enfer, oui, c'est intéressant. L'enfer, ça peut être deux choses. Ça peut être d'abord, et dans certaines rues, c'est le mot latin infra qui signifie en dessous. Donc la rue d'enfer n'est pas la rue qui mène à l'enfer, mais c'est la rue qui est en dessous d'une autre, au-dessous d'une autre. Donc plusieurs rues d'enfer s'expliquent ainsi. Mais il y en a d'autres pour lesquelles c'est la référence à l'enfer. L'enfer religieux, c'est-à-dire sont des rues étroites et sombres surtout qui sont un peu comme chez Dante des introductions à l'enfer. Et alors ce qui est intéressant, c'est que ces noms ont été mal perçus ensuite avec le temps et ils ont été transformés, comme l'exemple le plus connu, c'est à Paris la rue d'enfer Rochereau, qui est une rue d'enfer au départ. Et qui est devenue
la barrière d'enfer.
Comment ?
Il y avait même la barrière d'enfer.
La barrière d'enfer, oui. Alors, on dit parce qu'elle conduisait au château de Vauvert, qui était sur le jardin du Luxembourg actuel. Mais bon, que ça soit ça ou pas, peu importe, elle s'appelait rue d'enfer et elle a été remplacée après 1871 par la rue d'enfer Rochereau, en hommage au colonel d'enfer Rochereau du siège de Belfort.
Le paradis est présent ?
Oui, alors le paradis est présent avec là aussi plusieurs significations. Ça peut être très, très religieux, un ordre comme à Marseille par exemple, mais ça peut être aussi, dans certains endroits que j'ai trouvé, ça peut être l'endroit du cimetière ou le point le plus élevé de la commune. On monte au paradis. Ou ça peut être, encore dans d'autres cas, ça peut être une institution, comme à Romans-sur-Isère dans la Drôme, une institution qui était faite pour recueillir et pour rééduquer, si je peux dire, les femmes de mauvaise vie.
Justement, à propos de femmes de mauvaise vie, la prostitution rôde assez dans la toponymie, souvent cachée.
Tout à fait. Alors, parfois, elle n'est pas cachée du tout. Vous avez des rues du bordel qui sont très claires. Ou bien la rue qui va aux filles, dans un texte médiéval, qui est un toponyme descriptif. Et puis, alors, vous en avez d'autres qui sont un petit peu cachées, comme la rue du refuge, par exemple, qui est là encore comme le paradis, l'endroit où les filles étaient recueillies. Et puis vous avez en Provence des rues Buenos Carrière à Aix. Il y en avait une à Montpellier, il y en avait à Marseille aussi, qui veut dire, par une tautologie, la rue Bonne Rue. C'est-à-dire, c'était la rue où il y avait les filles que l'on appelait de mauvaise vie, par exemple. Et puis il y a la rue des Vertus aussi, il y en a une à Paris encore. La rue des Vertus, c'était pour les filles de petite vertu, comme on dit. Et ce sont des euphémismes qui permettent d'atténuer un peu l'effet du toponyme.
C'est donc au XVIIe siècle qu'apparaissent les premiers toponymes, les premiers noms de rue d'initiative publique. Et ça concerne, ce qui est une chose tout à fait nouvelle, des anthroponymes, donc des personnages. Parfois d'ailleurs des personnages qui sont Aubry le Boucher, par exemple. Qui est Aubry le Boucher ?
Ben, Aubry le Boucher, on le connaît pas bien, mais c'est un personnage qui a donné son nom à la rue, bon, probablement parce qu'il était propriétaire de la rue. Vous avez beaucoup de ces anthroponymes qui apparaissent au XVIIe siècle et puis qui vont se prolonger ensuite, sont des noms de propriétaires de terrain qui ont donné leur nom, qui ont donné leur terrain à la ville pour qu'on construise une rue et en échange, ils reçoivent l'honneur d'avoir leur nom sur la plaque.
C'est étrange parce que par exemple le pont Marie à Paris, c'est le nom d'un spéculateur, d'un lotisseur. Oui. La rue Dante à Paris, c'est pas du tout le poète italien.
La rue Feydeau non plus.
La rue Feydeau non plus,
ce n'est pas qui est près de la Bourse, ce n'est pas, c'est un propriétaire de terrain exactement.
La
rue Gracieuse également, oui.
Et parfois il y a une féminisation du nom, si le nom est un peu banal, Jean-Martin.
Voilà, alors vous avez la rue Vivienne par exemple, qui est une féminisation dans le quartier de la Bourse encore. La rue Vivienne et la rue Saint-Marc concernent le même personnage qui était le seigneur de Saint-Marc, Vivienne de Saint-Marc, et qui est un propriétaire de terrain. Et puis alors vous avez très souvent, là c'est un usage qui m'a intéressé aussi, très souvent des noms de personnages féminins, des noms comme rue Bernadette, par exemple, des choses comme ça, qui sont les noms des filles ou des femmes des propriétaires.
Donc au début du XVIIe siècle apparaissent aussi les hommages aux souverains, oui. Que ça s'agisse de la rue du Trône, rue Royale, oui. Rue Dauphine, rue, etc. Mais les grands artistes ou les grands écrivains apparaissent extrêmement tard, et que donc à la fin du XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe siècle, oui, et dans des lotissements culturels, on pourrait dire.
Ça, c'est très, très intéressant. Les noms des grands écrivains classiques, en particulier, vont apparaître au même moment dans plusieurs villes, dans les années 1770-1780, les dernières années de l'Ancien Régime. et à proximité de grands équipements culturels comme nous d'ailleurs aujourd'hui, c'est-à-dire des théâtres. À Paris, c'est l'Odéon, c'est la construction du théâtre de l'Odéon dans les années 1770 qui va provoquer des rues autour,
Racine,
Crébillon, Corneille. Et à Nantes, c'est la même chose. Oui, voilà. À Marseille également, l'opéra, l'opéra qui est de Marseille, qui a été reconstruit ensuite, va générer également des noms de rues semblables. C'est un phénomène très important parce que c'est la première fois que des noms de rues réfèrent à des personnes qui n'ont pas de relation très directe avec l'espace de la rue. Avant, c'était le propriétaire qui avait donné son nom, ou bien la personne qui était née dans la rue, etc. Mais là il y a un décollage de l'espace pour aller vers le temps et même vers l'intemporel. Ici, c'est les valeurs, les grandes valeurs un peu intemporelles que l'on essaye d'honorer.
Daniel Milhaud, qui a fait l'article sur ces questions dans l'ouvrage de Nora, Les lieux de mémoire, y voit l'acte de naissance du système honorifique français. Marseille, on est en 1787, à 2 années de la Révolution, et voilà, patatrac, tout le système va changer, mais va changer de façon radicale.
Oui. Alors là, la Révolution est un monde passionnant pour l'étude des noms de rue. Ça va changer d'une façon radicale, oui et non. C'est ce que j'essaye de dire. Il y a à la fois rupture et continuité. Il y a rupture dans la mesure où tous les noms qui rappellent le trône ou l'église ou bien l'ancien régime sont supprimés et remplacés par des noms à caractère plus révolutionnaire. Mais en même temps, il y a continuité avec ces dernières années de l'Ancien Régime, c'est-à-dire la valeur symbolique du toponyme, la valeur commémorative et symbolique du toponyme. Alors c'est pour cela qu'on fait appel à des noms de personnes très anciens, comme Brutus, par exemple, même moins anciens comme Rousseau, qui aura un très grand succès. On fait appel surtout à des concepts. Alors bon, il y a liberté, égalité, fraternité, bien entendu, qui vont commencer à apparaître dans les plaques des rues, et puis la concorde, l'équité, enfin des tas de choses.
Vous parlez d'un véritable catéchisme républicain, c'est un fait extrêmement amusant parce qu'on voit qu'il s'appelle l'équité, la propreté, l'éducation, voilà. L'humanité, l'amitié, l'expérience, le bon sens, la bonté. Et ce qui est très amusant aussi, c'est les noms qui étaient liés à la tyrannie de l'Église et qui changent de nom. Par exemple, au Puy-en-Velay, l'évêché, ça devient les petits tyrans. À Marseille, les pénitents bleus deviennent rue du mensonge, carrément. À Lyon, une rue devient des sans-culottes. Et puis on célèbre la Révolution.
C'est intéressant à Lyon, c'est la rue des Capucins, c'est un peu d'humour tout de même. La rue des Capucins qui devient la rue des sans-culottes, alors qu'ils avaient une robe.
Mais on voit célébrer la Révolution, les piques, les patriotes, les volontaires, le bonnet rouge à Marseille, haine, rue haine aux tyrans. Oui. Rue J'adore l'égalité à Bordeaux. Oui. Enfin, c'est tout à fait un...
La rue Saïra et la rue Sava, c'est merveilleux. À Marseille, on a conjugué au présent le Saïra, et ce qui est très, très chargé de sens. La rue, c'est devenu la rue Sava.
Et puis, il y a aussi, donc, vous l'avez signalé avec les philosophes, Rousseau, Voltaire, oui. Leurs livres, parfois, Le Contrat Social L'Esprit des Lois, Rue de l'Esprit des Lois, c'est
oui,
étrange.
Lois, oui.
Et puis, il y a quelques grands héros, notamment Marat.
Oui. Alors Marat, c'est l'un des rares révolutionnaires de l'époque qui a un nom de rue, parce qu'il est mort, et donc l'usage a commencé à se faire au XVIIIe siècle et va se développer de plus en plus, de donner un nom de rue à une personne qu'après sa mort. Donc on a attendu, c'est la mort de Marat qui a été un électrochoc important à cette époque et qui a été responsable du grand succès de Marat pour toutes sortes de choses, pour des villes. Il y a beaucoup de villes qui ont été appelées Marat. C'est devenu un prénom et c'est devenu aussi un nom de rue très important.
Dès 1794, c'est le grand nettoyage déjà. Puis hein, ce sera accentué sous le consulat et bien sûr sous l'Empire. Mais en partie à cause du désir des gens de revenir aux anciens noms.
Oui, on observe qu'effectivement, il y a le désir de revenir aux anciens noms, et on peut se demander, même si on n'a pas toujours suffisamment de preuves à l'appui, si ces innovations révolutionnaires ont été véritablement suivies d'effet. On a l'impression que beaucoup de noms anciens ont survécu tout de même dans l'usage populaire, et c'est ce qui explique qu'ils soient revenus si facilement à la fin. Quoi. En particulier les noms de saints qui ont été éliminés. Bon, Saint-Jacques est devenu Jacques, Saint-Pierre est devenu Pierre, la rue Pierre, la rue Jacques. Bon, on a le sentiment que ça n'a pas été, enfin que ça a heurté peut-être les sensibilités de la population et que ça n'a pas été très fortement suivi des faits. Parfois, on a même des preuves, alors très nettes, de délibérations qui ont été prises. Je pense à Toulouse en particulier, des délibérations qui ont été prises et qui n'ont pas été, à Montpellier aussi, qui n'ont pas été suivies des faits du tout. Oui.
Les situationnistes, des décennies après, retourneront rôder autour de la tour Jacques, etc. Reprendront ce trait. Que les nombreux étaient peu employés et étaient si fragiles étaient renforcé par le fait qu'il n'y avait pas de plaque. Donc tout ça était finalement virtuel, comme on dirait aujourd'hui.
Oui, absolument. Et c'est un usage oral des noms de rue qui a vécu pendant très longtemps. Les plaques vont apparaître avec des rythmes très différents dans le courant du XIXe siècle. Même s'il y en a à Paris déjà, comme on l'a dit, ou dans quelques grandes villes au XVIIIe siècle, c'est surtout à partir du milieu du XIXe, en très grosso modo, que les plaques vont apparaître. Et donc, jusque-là, c'est un usage un peu flottant des noms de rue.
Dans la ville inconnue, je n'aime rien. Je prends toujours des rues qui vont trop loin. D'interminables rues où je me perds, des quais, des avenues et des boulevards déserts. Puis entre deux maisons, j'entends le tintamarre d'un long train sur un pont qui s'en va quelque part.
Charles Dumont, La ville inconnue, 1960, paroles de Michel Rive-Gauche, musique de Charles Dumont lui-même. Jean-Claude Bouvier, on trouvera sur un site internet les noms de plusieurs ouvrages que vous avez édités sur ces questions, notamment celui dont il était question, Les noms de rue disent la ville, paru chez Christine Bonneton l'an dernier, 224 pages, 14,50 €.
Il y a des passants qui ont l'air de vous fuir.
Très peu de calendrier, mais tout de même, demain à Paris, une fête accompagnera la parution de l'annuel Optimiste d'architecture, réalisé par le groupe French Touch, qui s'était constitué cet automne en protestation contre les arguments qui accompagnaient l'attribution du prix de l'équerre d'argent à un projet qui avait été déclaré par certains commentateurs d'architecture ordinaire et opposé à l'architecture gesticulante. Rappelons que Francis Rambert, directeur de l'Institut français d'architecture, a été nommé commissaire du pavillon français de la 11e Biennale d'architecture de Venise, qui se tiendra à partir du 14 septembre. Il y rassemblera une cinquantaine d'équipes françaises, ceux qui gravitent justement autour de ce groupe French Touch, pour une exposition intitulée « Générosité, généreux versus générique ». L'ouvrage de 360 pages, annuel optimiste d'architecture 2007, a été tiré à 2500 exemplaires. Sa maquette est de Franck Talon. Et la fête est donc à la Maison d'architecture en Ile-de-France, au Récollet, à partir de 20h demain soir.
Dans la ville inconnue, je pense à toi.
Thierry Pacaud, vous recevez maintenant Jean-François Augoyard, philosophe urbaniste, qui a été le créateur en 1979, avec Jean-Jacques Delettré, du Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain de Grenoble, qu'on appelle le Cresson, et qui, depuis Pas à pas, qui était un essai sur le cheminement quotidien paru au Seuil en 1979, est l'auteur de divers ouvrages sur le paysage urbain qu'on trouvera sur notre site internet.
Jean-François Augoyard, vous êtes membre du CNRS et vous travaillez sur le bruit, le son, la musique. On va peut-être commencer d'abord pour y voir plus clair, si je puis dire, pour bien s'entendre plutôt sur les termes. Qu'est-ce que c'est qu'un son ?
Alors, un son, nous pouvons le prendre, je dirais, de trois façons, donc trois définitions. Il y a la définition physique du son. C'est toujours une intensité, une fréquence et c'est du temps. Et le temps, c'est absolument capital. Et tous ces paramètres sont mesurables. On est vraiment dans tout ce qui est l'ordre du mesurable. Puis après, on distingue aussi toujours en physique le son pur, qui est une fréquence toute seule. Un La 440, par exemple, qu'on entendra simplement dans un laboratoire. Le son musical, qui est ce son pur, plus des harmonies en ordre régulier, et puis ce qu'on appelle le bruit physique, c'est tout un mélange de sons, comme le son d'une douche, d'un torrent, etc., où toutes les harmoniques sont cette fois aléatoires. Voilà ce qu'on appelle aussi en termes extrêmes le bruit blanc ou le bruit rose. Alors après, ces sons-là, bien sûr, ils vont se propager quelque part. Et c'est là qu'on passe dans un ensemble de phénomènes qui ne sont pas tous mesurables, dont on va parler après. Il y aura des exemples sonores un peu plus tard. Et là, on est dans un milieu et nous sommes donc dans un bain de vibrations sonores. Je me rappelle simplement de cette citation de Boileau, « Bon Dieu qui frappe l'air de ses lugubres cris, c'est un air agité et nous baignons dans ce son ». Ça, c'est très important parce que physiquement déjà, on est dans une propagation. On n'est pas en face d'un paysage. Par exemple, si on parle de sonore, on est dans le paysage sonore, on est entouré de sons. Troisièmement, alors, dans l'ordre du vécu cette fois, alors, le son, il est entendu et défini par tout ce qui peut percevoir le son, l'oreille, mais bien plus que ce que nous disent les manuels d'acoustique, le corps vif, le corps s'entend tout entier. Et du point de vue de cette réception-là, il y a ce que Pierre Schaeffer appelait une attention d'écoute qui va rencontrer les fameux signaux physiques dont la physique traite, et bien sûr, on va voir intervenir donc toute une série de transformations, d'anamorphoses entre un son théoriquement bien mesuré. Première transformation, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le milieu, les formes, l'hygrométrie, mais aussi les formes architecturales, la hauteur des bâtiments, les revêtements vont transformer ce son, vont le modifier. Et puis, deuxième transformation, dans le vécu, notre audition, bien sûr, notre sensibilité, notre culture, nos origines sociales vont aussi choisir là-dedans ce que nous jugeons bon d'entendre pour nous à ce moment-là.
Donc Jean-François Augoyard, il y a des univers sensoriels et auditifs qui sont variables d'un individu
tout à
l'autre.
Fait.
Et est-ce que cette idée de dire que le citadin en France, par exemple, selon les dernières grandes enquêtes, y compris le Grenelle de l'environnement, met en avant la pollution sonore comme étant une des causes du mal-être, est-ce que ça c'est vrai?
Alors la première remarque que je veux faire, bon, il faut bien sûr se défendre du bruit, ici la médecine a bien étudié tous ces phénomènes-là, donc on ne va pas creuser ça, mais on a des effets auditifs, des effets extra-auditifs, etc. Mais ça, je dirais que c'est le premier niveau physiologique. Second niveau, les niveaux psychophysiologiques. Alors, en psychoacoustique, on a étudié, on a essayé de faire des échelles de gènes sur des moyennes, bien sûr, d'individus. Alors, on sait ce qu'il faut pour dormir. On sait qu'au-delà de tel temps d'exposition, beaucoup plus aussi important que l'intensité, hein, c'est assez capital. C'est bien dit dans toutes les plaquettes de défense de l'oreille. Bon, ça, c'était bien étudié. Et puis, on a, au niveau psychosociologique, ce que mes collègues ingénieurs appellent la boîte noire, mais c'est tout ce qui va être, justement, qui font que, même si les normes sont respectées, les gens peuvent quand même souffrir du bruit. Mais parce qu'on n'a pas pris en compte tous les éléments du bruit, y compris les éléments non mesurables. Et bien sûr, tous les phénomènes d'interaction. Je prends un seul exemple. Il y a un boulanger qui doit faire son pain le matin, qui le fait encore le matin, il fait du bruit, les gens se réunissent, ensemble, on va aller se plaindre. Quoi. On demande au boulanger, il y a un procès qui a lieu, il doit remettre ses machines aux normes, ses machines sont aux normes, les gens continuent à se plaindre. Donc il y a eu une habitude, je dirais, collective, de s'occuper de ça, bien sûr. Et puis il y a une sensibilisation au phénomène du bruit. Donc je dirais qu'entre ce qu'il faut faire absolument pour défendre l'intégrité psychologique, physiologique de l'individu et ce qui se passe sur le terrain, il y a bien sûr un écart extrêmement grand. Le problème du bruit, je peux juste finir là-dessus parce qu'on va parler d'autre chose, il est qu'on a simplement une attitude sociale et psychologique en même temps qui fait qu'on commence à s'occuper du son. Quand il y a du bruit, on dit « Ah, il y a des bruits gênants, donc à ce moment-là, on va s'occuper du son, on va investir des crédits, il y avait énormément de crédits dans les années 80 là-dessus. » Mais l'attitude globale, c'est que on s'occupe du son quand il y a des problèmes et on va répondre techniquement, parce qu'on a plein de dispositifs d'isolation, par une isolation de l'individu. Donc les deux mots sont absolument essentiels. Est-ce que c'est toujours en isolant qu'on règle les problèmes très complexes de bruit et de plainte pour le bruit? Est-ce que c'est toujours en s'occupant que de l'individu, ce qui est le sujet type de la psychoacoustique? Donc on a cette espèce de porte-à-faux là, à des problèmes sociaux, psychologiques, etc., collectifs, bruit de voisinage. On va répondre par des techniques, et là, on est en porte-à-faux. Il ne faut pas s'étonner que les problèmes soient toujours des problèmes récurrents et pas souvent bien traités.
Jean-François Goyard, est-ce qu'on connaît l'environnement sonore de nos ancêtres? Est-ce qu'il y a des études historiques?
Oui, alors il y a quelques beaux ouvrages. Bon, tout le monde connaît, je pense, l'ouvrage d'Alain Corbin sur le son des cloches. On a eu Massin, Les cris de la ville. On peut plonger aussi dans la discographie et dans les premières partitions. Je pense à Thomas Wilkes, qui écrit en 1650 Les bruits de la ville. Voilà. Et puis, on a un très beau livre fait par un de mes anciens thésards, Olivier Balahi, sur le son de la ville au 19e siècle. Et comment les préoccupations sonores aident à modeler l'espace et à configurer l'espace.
Oui. Très bien, Jean-François Goyard, vous nous avez amené quelques échantillons de sons. On va les écouter maintenant, et vous allez les commenter.
Alors cette séquence m'intéressait parce que on a coupé le début, mais le temps, bien sûr, à la radio, je sais, il est très compté. Et précisément pour le son, mais tous les ingénieurs du son le savent bien, le son, c'est d'abord du temps. Le son, c'est du temps qualifié, mais c'est de la durée. Travailler sur le son demande toujours beaucoup de temps. Mais ces séquences qu'on peut trouver au laboratoire du Cresson, puisqu'elles sont enregistrées par Jean-Luc Bardine, ici un ethnologue et preneur de son du Cresson depuis très longtemps, à Locarno, c'est la séquence de sortie de concert de Locarno. Alors je l'aime bien parce qu'il y a les dernières mesures d'une symphonie de Beethoven, et puis après, à ce son musical répond un bruit, même physique, qui est les applaudissements, qui est un type d'échange social. On rend du bruit contre de la musique, et puis après, les gens sortent petit à petit, avec cette espèce de rumeur un petit peu mondaine à la sortie d'un opéra. Et on est en plein, alors cette fois, dans un bruit qui est très intéressant, dans un son très intéressant, qui est cette espèce de mélange sonore où aucun son ne domine vraiment. Les figures rentrent dans le fond, d'autres figures sortent du fond. Et c'est typiquement ce qui me paraît très important dans le premier effet que je veux souligner, qui est l'effet de métabole. C'est-à-dire que dès qu'on a une densité humaine, dès qu'on est dans la ville, on va avoir cette espèce de patchwork de sons qui ne va pas bien du côté de l'intelligibilité que cherche l'acousticien ou le psychoacousticien, mais qui par contre est vraiment du, ce qu'on appelle en théorie de la communication, du fatigue, c'est-à-dire les gens sont en phase du point de vue sonore. Et cette espèce de patte sonore urbaine qu'on retrouve sur les marchés, dans les grandes places publiques, etc., c'est ce que les gens appellent « il y a de la chaleur ici ». Et les gens disent « laissez-nous nos marchés », parce qu'on peut entendre aussi les sons de marché comme cela, parce que le son fait partie, c'est pour ne rien dire, mais c'est pour vérifier que l'autre est toujours là et que nous sommes ensemble.
On va écouter un autre extrait. « Alors là, c'est, tout le monde a reconnu. Hein, c'est un bruit de rue, c'est un bruit de boulevard avec des voitures.
Mais si on peut entendre ce qu'il y a juste après, c'est, ce qui est très important, vous permettez un petit peu impossible. Bon, c'est parti. Alors, on est typiquement dans un carrefour et il y a 85 dBA, je crois, en niveau équivalent, ce qui est tout à fait considérable. Et alors, à un certain moment, le preneur de son fait comme les habitants, il va rentrer dans un hall de ces immeubles de Grand Boulevard, chez les Grands Boulevards très circulés, et on va avoir un silence fantastique. Et ça est très intéressant parce que d'une part, on a un premier effet, puisque je commence à parler d'effet, c'est l'outil de base que nous utilisons au laboratoire, parce qu'il montre ces doubles transformations dont j'ai parlé tout à l'heure. Le premier effet, c'est un effet de masque qui est très connu, c'est-à-dire que les gens parlent d'ailleurs sur ce fond sonore et on n'entend rien du tout. Et puis, à un certain moment, on va avoir ce que les gens appellent eux-mêmes un effet de coupure, c'est-à-dire qu'on va avoir comme un trou, ils disent comme un blanc, et cet effet de coupure, qui sont des sas de silence, entre guillemets, parce qu'il y a du bruit, mais la différence est tellement grande qu'on pense que c'est du vrai silence, sont des grands marqueurs territoriaux de la ville. Les gens organisent comme ça des moments où il y a un repli entre le privé, entre le public, le semi-privé et le privé. Et il y a même comme ça des marquages mémoriaux de sas de silence dont les gens se souviennent et disent « Ah là, c'est encore silencieux !» alors que de nouveau, c'est bruyant. Voilà donc un effet extrêmement important qui est d'ailleurs extrêmement utilisé dans la musique. Souvent, je fais entendre juste après les 50 premières mesures de l'ouverture de Macbeth de Verdi qui utilisent complètement cet effet de coupure systématique, des grands trous. Voilà.
Alors, on va écouter un autre échantillon. Là, on est en gare d'Anotte.
Voilà, tout à fait. Et on a un superbe exemple d'un effet tout à fait important qui s'appelle l'effet de filtrage, qui est d'ailleurs bien connu en physique, où on a une atténuation d'une part des fréquences ou un renforcement, exactement comme une passoire, si vous voulez. Et cet effet de filtrage, il existe, il traverse toute la ville. Il y a des filtrages, bien sûr, électro-numériques, mais là, simplement, dans les dispositifs physiques, le fait d'avoir une porte qui est juste entrebâillée permet de laisser passer, par exemple, que des aigus, ce que les mères de famille vont utiliser souvent pour entendre ce qui se passe dans la chambre des enfants. D'ailleurs, César Daly, architecte du 19e, Olivier Balaillé le cite, posait la question comment les parents peuvent entendre ce qui se passe dans la chambre des enfants sans que le compteur soit possible. Et c'est par un dispositif de chicane qui va sélectionner certaines fréquences. Puis leur dernier phénomène très important, toute langue est un filtrage. Apprendre une langue, c'est apprendre le bon filtrage, la bonne courbe de réponse, comme on dit en acoustique, pour parler avec les intonations typiques de cette langue-là. Donc le filtrage est un phénomène physique, en même temps très psychologique, très linguistique et très social en même temps. C'est typiquement un exemple du travail qu'on mène depuis plus de 25 ans au Cresson sur ces effets qui sont au centre de tous les apports disciplinaires possibles en termes de son.
Oui, parce que c'est ça qui va définir une ambiance. Mais ça,
voilà, tout à fait.
On va y revenir.
C'est cette collection
d'effets. Écoutons une publicité dans une ville.
Joyeux Noël à vous. En compagnie de Roland Dubillard.
Bon. 14h15, bienvenue. C'est
plutôt une annonce qu'une publicité.
Voilà.
Hein,
voilà,
c'est une théâtrale. Oui,
oui, oui. Alors, je me suis posté à Avignon, sur les grandes terrasses là, des cafés d'Avignon, au moment du festival, et c'était très intéressant d'enregistrer toutes les possibilités que vont utiliser les comédiens qui vont jouer le soir pour vendre leur production. Alors, il y en a qui font beaucoup de bruit, donc qui ont des interventions qui sont très rythmiques, qui permettent, puisque les sons musicaux arrivent à mieux émerger, parce qu'ils sont rythmés, parce qu'ils sont mélodieux, d'un brouhaha, d'une métabole, comme on disait tout à l'heure, d'un grand mélange sonore. Et puis, il y a aussi la proximité. Quelqu'un qui vient à chaque table avec sa petite sonnette, c'était ce cas-là. Alors, je donnais cet exemple-là parce qu'il est très intéressant. C'est ce qu'on appelle l'effet de créneau. C'est profiter d'une faiblesse dans l'ensemble sonore qui doit être gênant, qui doit être masquant, pour quelquefois retourner même ce handicap acoustique en avantage. Et c'est typiquement ce que font tous les crieurs de rue, les musiciens qui savent bien se placer pour que le son chanson passe malgré tout. Alors, il y a là,
il ne sera pas parasité par d'autres.
Tout à fait, tout à fait. Ou même qu'on arrive à passer malgré tout. Alors, quand on est sur un marché qui a beaucoup de bruit, celui qui fait passer la voix va utiliser des aigus ou des phénomènes rythmiques. Tous les crieurs de rue autrefois chantaient, et la voix chantée passe alors qu'il y a du bruit. Alors que si c'était de la voix parlée, elle ne passerait pas. Donc cet effet de créneau est passionnant parce qu'il est témoin de l'inventivité permanente, c'est ce qui me passionne depuis très longtemps, l'inventivité permanente, non seulement des musiciens, des spécialistes, mais de tout un chacun. Chacun est en fait, on a une belle thèse faite au Cresson là-dessus, chacun est un excellent acousticien qui s'ignore. Et toute la journée, comme dit Henri Torgue, qui dirige actuellement le laboratoire, on a tous notre bande-son du quotidien. Et chacun est très inventif dans l'agencement du son, arrêter un son, remettre un autre, renforcer, filtrer, faire des masques, etc.
Alors dans vos enregistrements, ouais, j'imagine excessivement nombreux, on a des bruits qui vont et des sons qui vont de quelle nature à quelle autre nature?
Alors on a toutes sortes de sons. On a pris plutôt des sons urbains, mais on fait aussi des enregistrements à la campagne. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui a alimenté le travail de plus de 20 ans, c'est d'avoir une collection la plus complète possible de ce répertoire des effets sonores, autour duquel vont travailler des acousticiens, des psychologues, des philosophes, des esthéticiens, etc., des géographes. Hein. Et alors, je dirais qu'on est ouvert à toutes sortes. On est inscrit d'ailleurs au répertoire d'ethnologie de la France, hein, la collection du laboratoire. Et les sons ne sont pas toujours très bons, mais il y a souvent des occasions qui sont exceptionnelles pour trouver des choses. Je pense à un beau travail de Jean-Paul Thibault sur les chantiers du bâtiment, où ils ont enregistré avec un ingénieur toute la communication sonore en plein milieu du bruit du chantier de bâtiment. Et les gens se disent plein de choses en utilisant les bruits même du chantier du bâtiment. Ça, c'est les choses qu'on enregistre qu'une fois, puis quand on revient, ça n'existe plus, etc.
D'accord. Alors, on va peut-être conclure juste, parce que c'est un de vos thèmes, c'est même le mot magique peut-être de tout votre travail, c'est le mot ambiance. Oui. Qu'est-ce qu'il signifie?
Alors, ce mot ambiance, il est justement pour prendre autrement les phénomènes dont j'ai parlé au début. Pendant 10 ans, on a travaillé en termes d'environnement, parce qu'il y avait vraiment du financement, il y avait de la demande. Mais environnement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est toujours prendre la dimension négative des phénomènes, et puis c'est savoir comment on va résoudre après coup les phénomènes. Donc pour nous, travailler sur l'ambiance, qui est la convergence de tous ces éléments, à la fois physique, l'atmosphère, l'ambiance milieu, on peut décliner ça de façon très, très diverse, c'est une façon d'être beaucoup plus positif, de dire aux architectes, au lieu de répondre après coup à des questions d'environnement, prévoyez-nous dès le projet.
Jean-François Goyard, je vais casser l'ambiance.
Oui, j'ai l'impression.
Je vous interromps. Mille merci. Oui, mille merci d'être venu de Grenoble, de nous donner cet échantillon musical et de bruit urbain.
Merci messieurs. On trouvera sur notre site internet donc les références de plusieurs livres de Jean-François Goyard. Nous terminons avec la diffusion des délibérations du jury du prix La Ville à lire à propos de l'un des ouvrages mentionnés, Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle de Laurent Turcot, historien que nous recevons d'ailleurs la semaine prochaine. Chacun de nos contemporains aura remarqué qu'en l'espace de quelques années, ce qu'on appelle les rituels de la promenade ont énormément changé. Ainsi, le même ministre, par exemple Bernard Kouchner, ne se promène-t-il pas de la même manière avec feu le président Mitterrand et avec l'actuel président Sarkozy? Avec le premier, c'était à Latché, parfois au Mont Beuvray, avec des galoches de cuir, un bâton de marche et les chiens. D'abord Titus, Basset, Artésien, puis le fameux Labrador Baltique. Avec Nicolas Sarkozy, c'est le jogging. Fin septembre, sur la 5e avenue en t-shirt, le président portait une casaque bleu marine du New York City Police Department, le ministre une casaque blanche sur laquelle on lisait « Gare aux gorilles ». Deux rituels de la promenade donc très différents, à 15 ans de distance, tous deux offerts aux photographes et à l'opinion. Laurent Turcot est un jeune historien canadien trop jeune pour avoir noté cette évolution. Il a enseigné dans l'université de Trois-Rivières et Québec et soutenu à Paris en 2005 un doctorat à l'école des hautes études en sciences sociales sous la direction d'Arlette Farge. Il explore dans son ouvrage « Le promeneur à Paris au XVIIIe siècle » paru, comme de bien entendu aux éditions du Promeneur, une période historique importante dans l'histoire des mentalités urbaines, celle qui précède le XIXe siècle, dont Walter Benjamin, après Baudelaire, avait fait le siècle du flâneur. Avant le flâneur, explique Turcot, et après les fameux embarras de Paris qui furent une grande préoccupation du XVIIe siècle, il y a l'âge où naît l'idée de marche urbaine, de promenade, et c'est donc le XVIIIe siècle. C'est un ouvrage méthodique, fondée sur l'histoire de la littérature, des mentalités, des représentations, sur les traités de savoir-vivre, les guides de voyage, mais aussi sur l'histoire des espaces physiques, jardins, remparts, cours et boulevards. Il conclut avec la fin de l'Ancien Régime et trois figures, une qui est encore très mal connue, Siméon Prosper Hardy, et puis beaucoup plus connue, Nicolas Edme Rétif de la Bretonne, et surtout Louis-Sébastien Mercier. Trois figures qui achèvent de constituer la promenade, non plus en une mise en scène réglée et orchestrée par un public distingué, mais en un spectacle urbain auquel tous peuvent participer. On entend le jury.
Alors, j'ai trouvé dans ce livre l'intérêt justement du sociologue. J'ai trouvé que le livre nous permettait d'opérer la rencontre entre une ville, une période de l'histoire et un processus long et classique qui est le processus de construction urbaine. Et qu'à cet égard-là, il mettait en scène, bien sûr, l'urbanisation, mais surtout l'urbanité, le rapport de l'un à l'autre surtout. C'est-à-dire que je trouvais que l'auteur réussissait à faire émerger la ville comme acteur d'un processus de transformation des rapports entre les humains qui est lié justement à la ville et qui le fait apparaître de façon assez sensible sur différents aspects. D'abord sur l'interconnaissance et l'interrelation par la promenade, mais aussi sur les boulevards et ce qu'ils impliquent comme mode de ritualisation des rapports entre les gens, avec les limites transgressives de ces rapports, et aussi sur les modes d'habiter les modes d'habiter qui se construisent dans une ville comme Paris. J'ai trouvé le style clair, quelquefois attrayant, mais malgré tout un petit peu monotone. La portée que je lui trouve à ce livre, c'est qu'il nous explique en partie l'intérêt que les étrangers trouvent à Paris. Je pense que la construction parisienne, qui date donc de même avant l'apparition de la promenade, mais qui voit apparaître les politiques comme des acteurs de la ville, ayant toujours en souci de faire en sorte que les habitants, promeneurs et visiteurs se rencontrent, explique pourquoi des gens viennent à Paris pour y rencontrer d'autres gens.
Thierry Pacot.
Il était temps qu'il y ait un livre sur l'histoire de la promenade, l'histoire de la marche. Il y avait les vieux travaux de Marcel Poët qui mériteraient d'être absolument réédités, car ils sont passionnants, qui montrent comment la promenade est effectivement, comme le dit Marc Asfalt, un moyen de rencontrer l'autre. Mais là, dans ce cas-là, au XVIe siècle, c'était comment les femmes pouvaient regarder les hommes et inversement et réciproquement, sans trop être impertinent. Et puis, il y a évidemment cette espèce de promenade en carrosse que nous parle Laurent Turcot aussi. Donc, ce n'est pas simplement la marche. Ce qui est intéressant dans son livre sur le XVIIIe siècle, c'est qu'il démontre comment le marcheur est avant tout un observateur. Donc là, ce qui est intéressant avec Laurent Turcot, c'est qu'il fait l'histoire du marcheur observateur, dont l'incroyable richesse du journal de 5000 pages, la plupart inédits, hein, comme le disait François Chalin tout à l'heure, de Siméon Prosper Hardy, dont je ne connaissais rien avant d'avoir lu ce livre.
Qui va être édité au Québec entre 2010 et 2012.
Ah bon, ben alors.
12 volumes.
En 12 volumes, très bien. Bon. En tous les cas, ce qui est très bien, c'est qu'on découvre effectivement que le promeneur aiguise son œil. Ce n'est pas simplement les pieds qui fonctionnent, c'est aussi l'œil. Et ça annonce le 19e siècle, évidemment, ça annonce le flâneur, puisque nous savons que la définition de la flânerie Balzac, c'est la gastronomie de l'œil. Donc on en est là, quoi. On est dans une sorte d'avant-bouche, un peu comme ça, de ce qui va devenir la flânerie, et qui, pour l'instant, est la marche. Alors moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé tout ce qui est dit sur le garde suisse, Ferdinand de Federici, qui est le surveillant, on dirait aujourd'hui un policier de proximité des Champs-Élysées, qui connaît tout le monde, qui anticipe les détours, les retours en arrière, à la limite même les croisements entre des personnes, etc. Et qui crée une sorte de code de civilité, une code de politesse, comme ça. C'est d'une certaine manière comme si la cour avait fondu totalement dans la ville, d'une certaine manière. Alors ça m'a beaucoup plu. Par contre, alors, au niveau de l'écriture, j'ai trouvé ça assez laborieux. Et c'est vrai que c'est difficile de citer Sébastien Mercier qui écrit si bien, ou Récit de la Bretonne. Et évidemment,
il ne peut pas rivaliser. Alors, j'ai trouvé ça un peu lourd. J'ai trouvé qu'il y avait au moins une centaine de pages de trop. Il y a beaucoup de redites. Et puis, alors, j'étais quand même effondré, il faut le dire, pour une maison aussi prestigieuse que Le Promeneur, qui appartient à Gallimard, d'avoir ces reproductions de gravures grises, tristes, absolument indignes d'un tel livre. Voilà, en gros, mes remarques.
Je signale, Thierry, que les mémoires du Suisse Federici ont été éditées, elles aussi, au Mercure de France, et qu'elles sont absolument captivantes. Christian de Porzampar.
On pourrait dire que c'est la forme artistique de ce jury et de ce prix. On est souvent partagé entre l'écriture, la littérature ou même la philosophie qui va dégager une thèse, un ensemble d'idées qui va nous faire réfléchir. Et puis le travail du thésard, de l'historien qui va d'une manière sérieuse nous apprendre des choses en accumulant un travail d'enquête avec des documentations bien. Alors Laurent Turcot, on apprend beaucoup, comme dans le précédent sur Le Havre. Et peut-être il manque quelque chose qui donne un éclat. Et pourtant, vous l'avez dit, Thierry, l'éclat de l'invention de la promenade, l'invention de la ville et de ce nouveau promeneur, c'est très fort. Alors on se dit, il faudrait lui donner du relief. Et là, il y a beaucoup de faits. Alors le fait qu'on connaissait ou qu'on ne connaissait pas, on sait que les boulevards ont été faits pour ça. C'est tout un changement de regard sur la ville. On apprend énormément de choses sur comment étaient fréquentés les jardins autour des Champs-Élysées, et c'est amusant. Mais enfin, ça fait énormément d'anecdotes qui ne sont même pas racontées d'une manière très très amusante, qui sont dans les rapports de police sur les gens qu'on voyait. Ça alourdit un petit peu, alors que quelquefois on se dit, en une page, ces choses-là pourraient être vraiment dépeintes, imagées, et ça supporterait un petit peu une vision qu'un autre regard sur la ville s'installe, une autre pratique de la ville. Tout est là, c'est bien mis en exergue, mais au fond, littérairement, est-ce qu'on peut le publier tel quel? Est-ce que c'est pas dommage, parce que ça va rester un ouvrage un peu de spécialiste, alors que l'idée est intéressante et qu'elle pourrait passer à un public large, ou relativement large?
David Kessler.
Oui, moi je suis d'accord avec Christian de Porzampar. Je trouve que ce livre, c'est un peu un regret parce que le thème est très beau. Il y a de très beaux moments et au fond, on aurait envie de l'aimer complètement, quoi. Au fond, la trame est très belle. Mais après, l'appareil est quand même extrêmement lourd. Quelquefois, l'appareil intellectuel, c'est-à-dire les méta-références qui encombrent quand même de temps en temps le récit. Et puis l'appareil critique est lourd et finalement ça alourdit considérablement l'ouvrage, et c'est vrai qu'on a des moments de fatigue, quoi, par rapport à ça, et je trouve que c'est dommage. C'est-à-dire que c'est le problème de la transposition d'une thèse, mais ce livre comme livre pour le grand public aurait gagné à être effectivement élagué, réécrit et simplifié, et je pense qu'il aurait pu donner un très beau livre.
François Loyer, vous qui êtes historien justement.
Oui, j'ai eu le sentiment de lire une thèse et pas de lire un livre. Et j'ai trouvé d'ailleurs que c'est le plan en vieil universitaire habitué à dire des méchancetés pendant les soutenances. J'ai regardé de plus près comment c'était monté. Et c'est le montage qui pose problème. Car il y a une partie sur les rituels de la promenade, une partie sur les lieux de la promenade, une partie sur les promeneurs. Et finalement, on a donc trois fois la même thèse déclinée dans trois thématiques différentes. Et ça rend le livre extraordinairement ennuyeux, alors qu'il est passionnant par ailleurs. Donc je crois que là, il y a un défaut d'organisation de la pensée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu le travail final de la thèse qui est d'écrire le récit. C'est de monter le scénario et puis de rédiger le texte qui va permettre que ce soit quelque chose qu'on lise. Donc ça, c'est une remarque qui me semble fondamentale, c'est un peu un péché de jeunesse, un auteur très jeune, c'est absolument fascinant ce qu'il fait, mais en même temps, il n'a pas encore tout à fait l'habitude de ce genre d'exercice. J'ai une autre remarque à faire, c'est que, comme tous les historiens actuels, il est tenté par l'histoire totale, mais avec les outils de la micro-histoire. Et que du tout, il va aux deux extrémités. Il veut à la fois traiter de la forme urbaine, traiter de la santé, traiter de la psychologie, traiter de la mode, traiter de tout ce qui existe. Et alors, comme il ne sait pas comment monter tout ça ensemble, il fait un travail de collage qui parfois est extrêmement pénible à la lecture. On saute d'une idée à l'autre, on a des effets de hockey qui sont vraiment dus à l'excès d'ambition et à l'angoisse de ne pas tout dire. Je crois qu'une thèse, c'est peut-être, enfin en tout cas un bon bouquin, c'est d'avoir énormément nettoyé.
L'ouvrage de Laurent Turcot, La promenade à Paris, est donc édité par Le Promeneur. 432 pages, 26,50 euros. Nous recevions Jean-Claude Bouvier à propos des noms de rue, puis le philosophe Jean-François Augoyard à propos des bruits urbains. La semaine prochaine, nous rencontrerons justement Laurent Turcot, cet historien québécois, pour une première conversation autour de son livre. On parlera des règles de civilité, des rituels de la promenade et de l'apparition des cours à Paris. Et puis, dans un mois, on le retrouvera à nouveau pour évoquer la création des boulevards. Et puis, la semaine prochaine toujours, le géographe Guy Burgel pour un ouvrage à caractère politique et économique, Paris meurt-il. Nous diffuserons les délibérations du jury du prix La Ville à lire à propos d'un autre parmi les ouvrages mentionnés, La ville mode d'emploi, de Carole Saturneau et Perrine Bellin. Je vous rappelle l'adresse d'un site internet qui offre divers services, bibliographies, calendriers, index, etc. et permet de télécharger l'émission durant une semaine, de l'écouter pendant un mois à n'importe quelle heure et où que vous soyez, et même à nos gens. Le dimanche, vivement, on file à nos gens. Alors brusquement, tout paraît charmant quand on se promène au bord de l'eau, comme tout est beau, quel renouveau. Paris au loin nous semble une prison, on a le cœur plein de chansons. Julien Duvivier, quand on se promène au bord de l'eau, musique de Maurice Yvain, interprétée par Jean Gabin dans le film de Duvivier, La Belle Équipe, 1936. Cette adresse est franceculture.com. C'était Métropolitain, une émission de François Chalin, réalisation Viviane Noël, avec la technique Loïc Durose pour le prix du livre et Amélie Fortin.